Jean-Paul Senghor aura été tout au long de son existence le fin et érudit missionnaire de l'Afrique, le porteur, avec Aimé Césaire, de la négritude. J'étais allé le retrouver pour une heure à Dakar. Je suis resté avec lui cinq trop courtes journées. C'était en 1988.
Poète, philosophe, chef d'État, en effet, vous avez été président du Sénégal 20 années durant, animateur aussi et surtout peut-être aujourd'hui de la francophonie, membre de l'Académie française depuis 1983, que de titres, mais je dirais volontiers que vous êtes avant tout un humaniste. Mais justement, humaniste, peut-on le rester aujourd'hui dans ce monde tourmenté, Léopold Senghor ?
Mais j'ai été surtout professeur, puisque j'ai enseigné le français, le latin grec pendant 10 ans et pendant 15 ans, les langues, le sénégalo-guinéennes. Et aujourd'hui, je m'occupe de la francophonie.
Les Africains vous le reprochent un peu. Vous vous occupez beaucoup du français, peut-être vous vous occupez un tout petit peu moins d'eux. Ils pourraient en tout cas vous le reprocher.
Oui, seulement ils oublient que je me suis d'abord battu pour la négritude déjà quand j'étais au séminaire. Et c'est à cause de cela que le père directeur m'a convoqué un jour en me disant que j'étais un très bon élève, mais que je n'avais pas le sens de l'obéissance.
Et comme chef d'État ensuite, vous avez pensé justement à ce que l'on vous disait, vous n'avez pas le sens de l'obéissance alors que vous avez demandé l'obéissance à tous vos sujets.
Mais je leur ai demandé non pas de m'obéir comme le font trop de chefs d'État, mais d'obéir à la loi démocratique, car vous le savez, nous avons réalisé au Sénégal une démocratie. Et dans les dernières années, j'ai favorisé le pluralisme et je réunissais régulièrement les chefs de parti et nous discutions.
Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires. En êtes-vous plus libre ?
Moi, je n'en suis que plus libre, car actuellement, je m'occupe de la culture. Et j'ai toujours considéré que c'était l'essentiel d'une civilisation.
Alors, je suis très frappé parce que j'ai eu la chance d'être accueilli par vous lorsque vous étiez président du Sénégal dans votre palais. Nous avions déjà fait une radioscopie il y a un grand nombre d'années. Et je vous vois là devant moi. Je sais que vous venez d'avoir 82 ans. Vous n'avez point changé. Je sais que vous obéissez à un régime strict. Pas de boisson. Vous faites de la culture physique. C'est bien cela ?
Exactement. Tous les jours, je me réveille à 6 heures et je fais 3 quarts d'heure de culture physique. Je bois de l'eau, sauf quand nous avons des amis, et surtout, je ne fume pas. Au demeurant, je n'ai fumé qu'à partir de l'âge de 30 ans, et à 60 ans, j'ai cessé de fumer.
Vous ne pensez pas aussi que vous devez ce comportement, cette allure, à votre qualité de noir, c'est-à-dire que les rides ne se voient pas sur vous?
Mais, oui, en un certain sens, parce que vous savez que justement, que sous les tropiques, la peau secrète la mélanine qui est un peu huileuse, vous voyez, et en somme qui entretient la peau.
Alors, nous avons souvent parlé de poésie, nous avons souvent parlé de politique, puisque je le rappelle, 20 années durant, vous avez été à la tête du Sénégal, président de la République. Aujourd'hui, nous parlons de littérature et nous parlons de ce que vous croyez. Un livre paraît aux éditions Grasset, dans la fameuse collection « Ce que je crois ». Et lorsque ces éditions vous ont demandé d'écrire un livre pour cette collection, « Ce que je crois », vous avez accepté sans hésitation et vous avez immédiatement dit « Déjà, au royaume d'enfance, je croyais ». Mais vous avez cru à quoi dans votre royaume d'enfance ?
Mais je croyais d'abord à ce que j'appellerai plus tard, à ce que nous appellerons plus tard la négritude. Et j'étais fier d'être noir, j'étais fier d'être sérère. Et j'ai toujours défendu la civilisation négro-africaine. C'est la raison pour laquelle, en première, aux vacances de Noël, le directeur du séminaire, du collège séminaire de Dakar, m'a dit que j'étais un très bon élève, qui n'avait rien à me reprocher, mais que vraiment, ce n'était pas ma vocation, car je n'avais pas, justement, la vertu d'obéissance, car je défendais déjà les valeurs de la négritude.
Oui, vous avez cru à la négritude dès le départ, mais vous n'avez imposé cette négritude que lorsque vous avez été très haut dans la hiérarchie, parce qu'à ce moment-là, vous le pouviez. Et vous avez lancé le mot. Un autre n'aurait pas pu le faire comme vous avez su le faire, car déjà, on n'osait plus dire nègre. Et vous, vous inventiez négritude.
Non, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot. C'est mon ami Aimé Césaire.
Oui.
Si vous voulez, moi, j'ai lancé le mot de francité en même temps qu'un Canadien. Et tout de même que c'est moi qui ai lancé le mot de normandité, car ma femme est normande et j'ai passé 15 jours cette année en septembre dans les pays scandinaves à faire des conférences sur la négritude et la francité.
Vous écrivez également, Léopold Sédar Senghor, « Toute ma vie, j'ai cru en certains principes et idées. C'est que je les avais sentis comme des vérités enracinées dans les faits, dans la vie. Et dès les premières années de mon existence, sur la terre des hommes. C'est pourquoi je commencerai cette introduction en parlant du royaume d'enfance. » Et vous en parlez de ce royaume d'enfance. Vous dites « Si j'appelle ces années le royaume d'enfance, c'est d'abord à cause de mes escapades avec mes camarades dans les champs, mais surtout dans les savanes boisées et les tanes. » Les tanes, c'est une terre plane, je crois. « Bien sûr, nous nous amusions à dénicher les œufs, à faire siffler les frondes contre les oiseaux, mais notre plus grande joie, c'était quand nous causions pieusement avec les ancêtres, voire les génies, les ancêtres, les génies, vous l'Africain, le Sénégalais, vous le poète. » C'est là que commence vraiment, je crois, la poésie.
Mais oui, d'ailleurs, il y avait la famille de mon père. Mon père était de la noblesse. Je me rappelle encore quand le roi Lucine, quand le roi Lucine venait rendre visite à mon père. Il était sur un cheval, entouré de quelques griots à cheval qui chantaient des chants polyphoniques. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau. Mais je n'avais pas choisi le côté de mon père, mais de ma mère. Car on est noble par sa mère, on est de la race de sa mère, et ma mère était la fille d'un paysan moyen qui avait un petit troupeau. Et je passais mon temps avec les bergers de mon oncle. Je passais mon temps, donc, à courir à travers les bois. C'était vraiment le royaume d'enfance.
Et aujourd'hui, on a un tout petit peu oublié que cette Afrique était justement habitée par des rois et par des princes. Et souvent, on dit que le premier homme est venu sur la terre d'Afrique. Et vous le défendez, cela, et vous en parlez dans votre livre. Avec un peu de vanité, d'ailleurs.
Non, avec un peu de fierté ou d'orgueil, si vous voulez. En effet, le premier congrès international de paléontologie humaine, qui s'est réuni en octobre 1982, a confirmé que l'homme a surgi de l'animal en Afrique et que, pendant 2 500 000 ans, je cite, l'Afrique est restée aux avant-postes de la civilisation. Le Congrès a dit jusqu'il y a 40 000 ans, et moi je dis jusqu'à 4 000 ans avant Jésus-Christ, quand les Égyptiens ont inventé la première grande écriture, les Égyptiens, dont Hérodote, le père de l'histoire, dit au livre 2 qu'ils avaient la peau noire et les cheveux crépus en grec, et ici, melancroes kai olutrikes, mieux. Aujourd'hui encore, quand vous comparez les Égyptiens et les Sénégalais, qui passent pour être parmi les plus noirs des noirs, les tables numériques des groupes sanguins qui indiquent la race, nos tables numériques se ressemblent à un point près.
Vous êtes fier d'être Sénégalais et vous n'êtes pas loin de croire que c'est peut-être le peuple élu de l'Afrique.
Mais il est parmi les peuples élus, les préhistoriens français, car oui, je leur dois beaucoup, n'est-ce pas, disent que nos ancêtres, à nous Sénégalo-Guinéens, ont quitté la vallée du Nil 9000 ans avant Jésus-Christ et aujourd'hui encore. Nos langues, qui sont des langues agglutinantes à classe nominale, ressemblent à l'égyptien ancien.
Vous avez été furieux lorsque on a fait ce partage de l'Afrique dans des conditions d'ailleurs qui seront peut-être expliquées un jour, parce qu'on a cassé des peuples. On les a divisés vraiment avec des frontières qui ne peuvent pas exister. Et lorsqu'on voit le nombre de langues que vous avez dans vos pays, tout cela est insoutenable, non ?
J'ai toujours protesté contre cette division de l'Afrique. En réalité, les Africains, leurs langues se partagent en deux groupes. Il y a les langues, agglutinantes. Depuis la Méditerranée jusqu'à la forêt tropicale, et il y a les langues à clics des Hottentots et pygmées. Oui. Vous voyez ? Et parmi ces langues agglutinantes, vous avez les langues à classe nominale dont le modèle est l'égyptien ancien. Et aujourd'hui, ce sont les langues bantoues. Et nous, au Sénégal, nous sommes isolés en Afrique de l'Ouest. Nous sommes des langues semi-bantoues. Et puis, il y a les autres langues, comme le berbère, le mandingue, etc. Mais il y a surtout l'opposition entre les langues agglutinantes et les langues à clics des pygmées et autres autantes.
Mais vous ne pensez pas, Léopold Sédar Senghor, qu'il faudrait les protéger, ces langues ? Et c'est pour ça que parfois, lorsque les Africains vous regardent, parce que vous êtes un tel personnage pour l'Afrique, ils se disent, mais pourquoi ne fait-il pas autant pour nos langues africaines qu'il fait pour la langue française ?
Et j'avais commencé à faire avant, n'est-ce pas ? Car quand j'ai réformé l'enseignement, j'ai décrété que pendant l'école primaire, on apprendrait en même temps le français et sa langue natale. C'est ainsi qu'à l'école des Pères du Saint-Esprit de Ngazobile, à 6 km de ma ville natale, Joal, j'ai fait mes études primaires en 6 ans seulement, en apprenant en même temps le français et le wolof. Mais quand je suis parti, quand j'ai donné ma démission, on n'a pas continué, on n'a pas appliqué la réforme que j'avais préconisée.
Alors, vous le dites, Léopold Senghor, pour nous, négro-africains, croire est un acte, plus exactement une manière d'être qui engage intégralement l'être, esprit et âme, sans oublier le corps. Vous allez jusque-là ?
Oui, je vais jusque-là, et j'ai toujours vécu comme j'avais cru, vous voyez ? Donc, j'ai appris en même temps le français et le wolof, en plus de ma langue, le sérère. Et dans les années 20-30, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, je faisais du français, latin, grec à la Sorbonne, mais en même temps, je suivais les cours de l'Institut d'ethnologie. Il y avait alors les fondateurs de l'anthropologie, comme le professeur Paul Rivet, et je suivais les cours de Mademoiselle Homburger à l'École pratique des hautes études. C'était la plus grande spécialiste des langues négro-africaines. Vous voyez, vraiment, j'ai vécu comme je croyais. J'ai mené de front, n'est-ce pas, des études indo-européennes et des études négro-africaines.
Alors, je le rappelle, Léopold Senghor, vous êtes né en 1906 à Joal. Vous parliez de ce petit village à l'instant. Petit village du Sénégal qui, avec l'île de Fadiouz, constitue aujourd'hui une commune de 15 000 âmes. Mais lorsque vous y êtes né, vraiment, le village était tout petit. Les choses ont changé.
Il y avait 3 000 habitants.
Ouais. Alors, vous le revoyez, ce village ? Vous revoyez cette Afrique ? Vous êtes content du changement qui s'y opère ?
Je suis content du changement qui s'y opère et je ne suis pas content. Parce que, il faut dire d'abord, l'Afrique, les peuples d'Afrique étaient des peuples démocratiques. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Je vais vous prendre l'exemple du royaume sérère dont je vous parlais tout à l'heure. Depuis le conseil du village jusqu'au conseil du trône, aucune décision importante ne pouvait être prise sans discussion. C'est ainsi que quand le roi mourait, le conseil du trône, où étaient représentées toutes les classes sociales et même les esclaves, le conseil du trône élisait son successeur parmi ses neveux utérins, les fils de ses sœurs. Vous voyez.
Donc il y avait une plus grande liberté qu'ailleurs.
Il y avait une plus grande liberté et une plus grande démocratie. Et actuellement, la majorité des États africains vivent sous un régime de dictature. C'est contraire à la tradition démocratique de l'Afrique.
Vous avez appris un peu plus tard que votre nom, Senghor, venait du portugais. Cela a dû vous chatouiller quand même l'esprit. Hein. Vous avez dû être agacé que ça vienne du portugais.
Ah oui, pour la première fois que je l'ai appris, j'ai eu honte. Et puis je me suis rappelé les cours du professeur Paul Rivet, dont je vous parlais, et je me rappelle un de ses cours, où il nous montrait sur la carte le bassin méditerranéen et il nous disait, c'est ici, autour de la Méditerranée, que sont nées les premières et les plus grandes civilisations par un double métissage biologique et culturel entre les Africains, les Européens, les Asiatiques, ou si vous préférez, entre les Noirs, les Blancs et le Jaune. Et j'entends encore un élève chahuteur qui criait, plus elles sont blondes, plus ils sont noirs.
Et votre père, lui, était très bien installé, parce que c'était un négociant qui avait une fortune, puisque vous vous dites qu'il avait 1500 vaches. 1500 vaches, cela fait déjà un troupeau, fait une belle ferme.
Mais exactement. Et il était commerçant et il travaillait avec les grandes maisons commerciales de France, comme Morel Prom, Morel Frères, dont les directions étaient soit à Bordeaux, soit à Marseille. Oui, c'était un grand commerçant.
Donc vous êtes né bourgeois, avec une facilité, peut-être un petit privilège par rapport à tous vos amis de l'Afrique.
Moi, je suis né, nous répudions...
Noble
alors,
bourgeois.
La bourgeoisie, c'est mon père qui était noble. Oui. Mais enfin, mon père était un noble...
Mais vous ne l'avez pas suivi sur les chemins quand même glorieux des épousailles, car votre père avait 4 femmes.
Mon père avait quatre épouses, mais c'était alors la coutume.
Oui, mais c'est encore la coutume. Simplement, cette coutume a été un peu brisée, mais je voudrais savoir ce que vous pensez, vous, Léopold Sédar Senghor, de la polygamie. Est-ce un bien pour l'Afrique ?
Ah non, la polygamie n'est pas un bien pour l'Afrique, et je me suis battu pour introduire peu à peu la monogamie, mais j'ai essayé de le faire habilement, vous voyez, sans heurter. Parce que le meilleur moyen de combattre la polygamie en Guadeloupe, c'est de généraliser l'instruction. Pendant les 20 ans où j'ai été président de la République du Sénégal, au budget, par exemple, nous consacrions plus d'un tiers du budget de 30 à 33% à l'éducation, à la formation et à la culture. Et nous consacrions 25% du budget à l'élevage et à l'agriculture. Vous voyez.
Alors, il y a vraiment cette question très importante pour vous. Il y a la négritude qui vous a pris tout entier, toute votre vie. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le métissage. Vous avez épousé une blanche, vous avez épousé une française.
J'ai épousé une française et moi-même, je suis un métis. Non seulement mon nom, Senghor, vient de Senhor portugais, monsieur, mais encore... Le nom de ma ville natale, Joal, c'est un nom de famille au Portugal. Si vous allez à Lisbonne, il y a un grand café où il y a écrit le nom de Joal. C'est le nom du propriétaire. Alors, quand je me suis aperçu donc que j'étais métisse, que j'étais du groupe sanguin A, le groupe européen, j'ai commencé par avoir honte et je me suis alors souvenu des leçons du professeur Paul Rivet. Et ça m'a conforté.
Et vous écrivez, c'est ici, aux latitudes de la Méditerranée et tout autour de la Terre, que sont nés par métissage biologique et culturel les premières civilisations historiques et les plus grandes. Alors êtes-vous d'accord avec le professeur Jacques Ruffier lorsqu'il dit que le métissage est un phénomène heureux et plus encore un phénomène nécessaire ?
Mais bien sûr, je connais très bien Jacques Ruffier, qui est un ami comme le professeur Jean Bernard.
Vous êtes d'accord là-dessus ? Métissage, suis... phénomène heureux.
Exactement.
Et je crois qu'il est important, lorsqu'on parle avec un homme comme vous, de définir, si on veut bien comprendre son parcours, de définir le code de l'honneur sénégalais qui inspirait la jeunesse et qui vous inspirait. Alors, quel était ce code très particulier ?
Mais à quoi faites-vous allusion exactement ?
Tiens, la première notion de ce code est le jom, que je traduis par le sens de l'honneur. Le jom, c'est la conviction qu'on a de sa dignité parce que de son intégrité morale. Conviction fondée sur le fait qu'on a toujours agi comme une personne responsable. Le jom est si important pour l'intégrité morale de la personne que lorsque celui-ci est atteint, si peu que ce soit, il n'est qu'un moyen de le recouvrer, le suicide. Et vous donnez l'exemple d'ailleurs. Par exemple, votre père avait, je crois, non pas insulté, mais enfin avait traité l'un de ses palefreniers de menteur. Et la seule solution pour ce palefrenier, ça n'était pas de répondre. C'était de répondre par un acte. Il s'est pendu.
Il s'est pendu. Et c'est pourquoi le suicide chez nous est très fréquent. C'est le seul moyen de laver son honneur et de se présenter comme un honnête homme.
Alors, vous parlez également des trois vertus, des trois principales vertus qui font l'honnête homme. Alors, ce sont des mots, la kersa, le teguin et le mun. Je le prononce très mal, sûrement.
Oui.
Alors, redites-moi. Le teguin.
Le teguin, c'est la politesse. Oui. Le kersa, c'est le sens de l'honneur. Et le mun, c'est patience.
Voilà. La patience. Et ce sont pour vous les trois vertus essentielles ?
Ce sont les trois vertus essentielles qui font l'honnête homme.
Et vous pensez que ces bonnes manières, car ce sont des bonnes manières, hein. Rappelez-moi un peu alors la...
La kersa.
Oui, alors
le
c'est...
Le sens de l'honneur.
Oui.
La teguin, la politesse.
La politesse.
Le savoir-vivre. Et le mun, la patience,
la patience,
le sens de la mesure.
Vous pensez que ces vertus sont encore enseignées aujourd'hui aux jeunesses sénégalaises ? Vous êtes parti et vous aviez une haute idée de la jeunesse et de votre peuple.
Ces vertus sont encore enseignées, sinon dans les écoles, mais encore dans les familles. Mmh. Et justement, c'est ce qui sauve aujourd'hui l'Afrique noire. C'est que l'Afrique noire a gardé le sens de sa dignité, vous voyez. Et c'est ça l'essentiel.
Tout de même, vous avez eu plus de chance que beaucoup d'autres, parce que lorsque vous parlez de votre père, vous dites, Léopold César Senghor, mon père avait refusé à mon frère Adrien, l'aîné, c'est-à-dire votre aîné, brillant élève de l'école secondaire de Saint-Louis, la chance d'aller faire des études supérieures en France. On lui avait affirmé qu'il risquait d'y épouser une toubabesse, c'est-à-dire une Française. C'est vrai ?
Exactement, exactement.
Mais il vous l'a permis, à vous.
Mais c'est vrai, mais parce que plus tard, alors si vous voulez, les mœurs ont évolué. Mon père a appris à connaître les Français. Il avait d'ailleurs des amis parmi la bourgeoisie commerçante de Bordeaux. Vous voyez, évidemment, son esprit a évolué.
Vous avez souffert une seule fois, vous, de ce qu'on appelle le racisme. Bon, vous êtes venu en France, vous avez fait de hautes études et on en parlera. Vous étiez un normal supérieur, vous avez eu un illustre condisciple qui est Georges Pompidou. C'était votre ami. Bon, on vous a dit une seule fois que vous étiez noir, on vous l'a fait comprendre ?
Ah, non.
Jamais.
Non, vraiment, je n'ai jamais souffert du racisme au Sénégal. Mmh. Surtout, avec mes compagnons, je précise tout de suite que je ne suis pas un ancien élève de l'école normale supérieure, je suis un agrégé. Je me suis présenté, je serai franc, je me suis présenté deux fois. La deuxième fois, j'ai été le premier des non admissibles. Normalement, j'aurais dû me présenter une troisième fois, mais j'étais trop âgé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai présenté J'ai préparé l'agrégation de grammaire, qui est l'agrégation des bûches.
Vous étiez le premier agrégé là-bas,
africain. J'ai été le premier agrégé d'Afrique noire, en tout cas.
En tout cas, après vos études primaires, vous avez perdu quand même quelques années, pas trop, quand même 2 ans, à réfléchir sur l'orientation que vous alliez prendre. Et il est amusant de constater que, d'abord, vous avez pensé au séminaire, vous avez souhaité devenir prêtre.
J'ai souhaité devenir prêtre, je vous l'ai dit. Je suis entré au séminaire, mais je commençais déjà à défendre la théorie de la négritude. Et je me rappelle très bien, quand j'étais en première, aux vacances de Noël, le père supérieur m'a appelé, m'a parlé très simplement, m'a dit que j'étais un très bon élève, mais que probablement je n'avais pas la vocation parce que je n'avais pas le sens de l'obéissance. Alors, je suis allé au lycée laïque et tout de suite, on m'a fait passer de la seconde à la première. Et à la fin de l'année, j'ai été reçu au baccalauréat avec mention assez bien, alors que j'avais sauté une classe.
Mais vous pouviez imaginer, Léopold Senghor, que bon, les études ont été brillantes, vous êtes agrégé. Vous pouviez imaginer que vous seriez un jour à la tête d'un État, car vous, le poète, vous étiez quand même très peu fait pour la chose politique.
Ça ne m'intéressait pas du tout. Et je me rappelle avec Pompidou, car je passais mes vacances régulièrement. Pendant 15 ans, j'ai passé mes vacances à Château-Gontier, chez le docteur Cahour, le beau-père de Pompidou. À ce moment-là, nous payions les têtes des hommes d'État. Nous ne les respections pas du tout. Je vous ai dit comment je suis tombé dans la politique.
Vous y êtes tombé pourquoi ? Par hasard ?
Non, pas par hasard. Je vous l'ai dit. On manquait d'un candidat aux élections. Le législatif, ça a été à la première constituante en 1945. J'étais au Sénégal où je préparais ma deuxième thèse de doctorat d'État sur la poésie populaire serrère. C'est alors que pendant un an, le Parti socialiste m'a envoyé délégation sur délégation. Alors, pour les décourager, je leur ai dit, vous voyez bien, je suis socialiste, mais je suis catholique et pratiquant. Et on m'a répondu, c'est très bien, précisément le premier de la liste, Lamine Gueye, est musulman, il nous faut un catholique. J'étais coincé, et c'est comme ça que je suis tombé en politique.
Et que vous êtes devenu président de la République, président du Sénégal. Vous êtes toujours socialiste et catholique ?
Je suis toujours socialiste et catholique pratiquant, d'ailleurs. Pendant plusieurs années, j'ai été membre du Conseil pontifical pour la culture chargé du problème du latin. Et cette année, au mois d'avril, j'ai organisé à l'Université de Coimbra au Portugal. Il y avait là mon ami Mario Soares, président du Portugal, mais chrétien et catholique. Et j'ai organisé un congrès international sur les humanités gréco-latines. La plupart des interventions, d'ailleurs, se faisaient en français.
Vous devez être furieux aujourd'hui que la messe soit dite en français. Elle n'a plus le mystère d'autrefois.
Je ne suis pas furieux, mais quand je suis à la messe en France, je ne vous le cache pas, je trouve les paroles en français moches. Vraiment, ça n'a pas la beauté du latin. D'ailleurs, mes prières, je les fais chaque matin en latin. Et quand je suis au Sénégal, le dimanche, j'assiste à la messe en latin, ou plus exactement, comme je suis un ancien chef d'État, un prêtre vient nous dire la messe en famille, mais en latin.
Vous êtes interrogé à un certain moment, Léopold Senghor, sur cette religion musulmane quand même qui vous touchait de très près, vous le catholique.
Ben, c'est-à-dire que la famille de ma mère était musulmane et la famille de mon père catholique. C'est pourquoi je ne me suis jamais senti divisé Et on ne m'a jamais reproché au Sénégal d'être catholique et surtout d'être catholique pratiquant. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a une harmonie entre chrétiens et musulmans au Sénégal. Tenez, j'ai créé une section classique comme en France. Dans cette section classique, les élèves choisissent entre l'arabe et le latin grec. Je vous ai dit que nous sommes plus de 80% de musulmans, mais les élèves ne se placent pas de ce point de vue. En général, les garçons choisissent l'arabe et les filles choisissent le latin grec actuellement à l'université de Dakar. Au département de latin grec, la plupart des professeurs sont des musulmans et surtout des musulmanes. Notre premier agrégé en Afrique, car ce n'est pas moi le premier agrégé, notre premier agrégé en Afrique est une jeune fille musulmane. Tout à l'heure, je vous l'ai dit d'ailleurs, je ne suis pas élève de l'école normale supérieure.
Vous avez préparé l'école normale supérieure.
J'ai préparé l'école normale supérieure. Si j'avais pu me présenter une troisième fois, probablement j'aurais été reçu. Mais...
Léopold Sédar Senghor, vous êtes content du parcours que vous avez fait. Bon, parti d'Afrique, parti du Sénégal... agrégé, professeur, ensuite homme politique par hasard, mais président de votre pays par la force des choses, l'Académie française. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Vous avez fait un très 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 beau chemin, mais tout grand chemin comme ça, balisé par les honneurs, s'accompagne parfois aussi de tristesse. Et vous avez perdu un enfant. Toute vie a ses blessures.
Mais vous l'avez dit, ça a été vraiment la plus grande épreuve de ma vie.
21 ans.
Et surtout pour ma femme, car il avait toutes les qualités. Il était beau, il avait la taille moyenne du Sénégalais, 1m80. Il était travailleur. Vous voyez, je vous ai dit... que le diplôme d'études supérieures après la licence en droit, il a été reçu avec 17 sur 20, c'est-à-dire mention très bien. Ça a été la plus grande épreuve pour ma femme et moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit pour lui une élégie qui a été mise en musique polyphonique par...
Vous avez oublié un tout petit peu, là.
Pas le chef d'orchestre. par celui qui dirige la chorale de la cathédrale de Dakar.
Le chef des chœurs.
Le chef de chœur, comme vous dites.
Mais le poète, dans ces cas-là, peut être un grand privilège. C'est de se sauver par les mots.
De se sauver par l'art. Justement, je n'avais qu'un moyen de consoler ma mère, de consoler ma femme, c'est d'écrire cette élégie pour Philippe.
Léopold Sédar Senghor, vous écrivez ceci, je crois d'abord et par-dessus tout à la culture négro-africaine, c'est-à-dire à la négritude. Et on y revient sans arrêt, d'ailleurs, comme le dirait votre femme, ce sont vos trois dadas. Quels sont les trois dadas de Léopold Senghor? Les trois dadas.
C'est
le premier.
C'est la négritude.
La négritude. Le second, c'est...
La francité.
Et le troisième,
la civilisation de l'univers.
Voilà. Alors, vous avez cru à tout cela. Vous croyez pour l'avenir à la francophonie, plus exactement à la francité, mais intégrée dans la latinité et par-delà, dans une civilisation de l'universel où la négritude a déjà commencé de jouer son rôle primordial. Vous le pensez vraiment?
Mais je le pense vraiment. Si vous avez lu mon livre, vous voyez que je propose l'insertion de la francophonie dans la latinité. Alors, à ce moment-là, nous ne serions plus 400 millions d'habitants, nous serions 1 milliard. Il y a mieux, il y a quelques années... J'ai fait signer à Buenos Aires un accord culturel entre les quatre pays latins, le de la Méditerranée, France, Espagne, Portugal, Italie d'une part, et d'autre part, les quatre plus grands pays latino-américains, Brésil, Argentine, Mexique et Colombie. Mais je propose aussi des langues classiques pour la francophonie. Le latin grec, langue indo-européenne, l'égyptien ancien, langue africaine agglutinante, l'arabe, langue sémitique, et le chinois, langue à ton. Ce sont nos amis vietnamiens qui ont proposé le chinois.
Et l'anglais dans tout cela?
Au Sénégal, les élèves de l'enseignement secondaire doivent choisir une première langue étrangère germanique. Ils ont le choix entre l'anglais et l'allemand. Et moi, j'ai toujours encouragé l'allemand. Si 80% choisissent l'anglais, c'est plus useful, c'est plus facile. Il y a quand même 20% de courageux qui choisissent l'allemand. Mais ce n'est pas tout. Je n'oublie pas les langues latines. Comme deuxième langue étrangère au Sénégal, l'élève doit choisir une langue latine, une langue néo-latine, l'italien, l'espagnol ou le portugais.
Alors une question se pose, Léopold César Senghor. Vous habitez la France. Bon, sur 4 mois, vous passez 1 mois au Sénégal, 3 mois en France. Plus tard, j'espère beaucoup plus tard, il vous faudra choisir une terre d'accueil pour l'éternité. Alors, ce sera la France ou ce sera le Sénégal?
Non, pour le... J'ai pris mes dispositions, non seulement moi, mais ma femme veut me suivre. Nous serons enterrés au cimetière catholique de Dakar, à côté de notre fils Philippe.
Oui. La décision est déjà prise.
Alors,
il y a aussi, Léopold Senghor, la musique. Et on vous a demandé un peu quelles étaient les musiques que vous aimiez. Mozart, par exemple, n'est pas une musique de l'Afrique.
Mais évidemment, j'aime la musique africaine et j'aime la musique européenne. Par exemple, ce que j'aime le plus, c'est le plein chant. Mais le plein chant est d'origine africaine. Le plein chant est la polyphonie. On lit dans les manuels de musique en Europe que ce sont les Arabes qui ont apporté à l'Europe le plein chant et la polyphonie à travers l'Andalousie. Oui, mais d'accord, mais les Arabes ont pris le plein chant et la polyphonie aux Noirs et à l'Afrique. Jusqu'ici, le chant populaire en Afrique du Nord, chez les Berbères, allez écouter, il y a encore un plein chant polyphonique. Vous voyez? Et alors, ce que j'aime, je dis que parmi les musiciens européens, les musiciens classiques, ce que je préfère, c'est Mozart. Parce que la musique de Mozart me rend heureux. Ouais, c'est une musique qui vous apporte la joie. Parce qu'elle est fondée essentiellement sur la symphonie, sur l'harmonie.
Mais à quel âge vous est-elle parvenue? Parce que lorsque vous étiez dans votre Sénégal natal...
Mais quand j'étais au séminaire...
Au séminaire.
Ah oui. Mais
lorsque vous deveniez prêtre.
Mais parce que au séminaire, et même aujourd'hui à la cathédrale de Dakar, au fait, n'est-ce pas? Nous chantons, la musique religieuse de Mozart et des autres grands musiciens européens.
Vous avez été heureux, très très heureux, Léopold Senghor, lorsque vous avez été accueilli à l'Académie française. C'était pour vous un grand honneur.
Ça m'a posé d'abord un problème. Est-ce que, étant nègre, défendant la négritude, il faut accepter d'être accueilli à l'Académie française? Mais je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Parce que, à côté de la civilisation négro-africaine, il y a la civilisation européenne, il y a d'autres civilisations. Vous voyez, c'est parce que je pense qu'en Europe, la plus grande civilisation, celle qui répond le mieux à mon idéal, c'est la civilisation française. Vous voyez, et c'est pourquoi j'ai accepté, parce qu'on m'avait consulté, j'ai accepté d'être élu à l'Académie française. Et depuis lors, donc, je travaille à la constitution, n'est-ce pas, de la francophonie, qui est une version, et la version la plus humaniste de la civilisation de l'univers.
Et vous êtes d'ailleurs vice-président de la francophonie, et vous serez bientôt à Dakar, puisqu'il y aura le sommet de la francophonie.
Oui, je suis vice-président du Haut Conseil de la francophonie. Et hier, c'était la rentrée solennelle des 5 académies de l'Institut de France. Il y a eu 5 discours, et moi, j'ai fait le discours pour l'Académie française sur l'enseignement du français, puisque pendant 10 ans, j'ai enseigné le français, le latin et le grec, et que j'ai une certaine expérience. Naturellement, j'ai préconisé l'enseignement des humanités gréco-latines, et je donnais comme exemple le Sénégal à majorité musulmane.
Léopold Senghor, si vous avez été accueilli à l'Académie française, c'est d'abord parce que vous étiez poète, et d'autres y sont accueillis parce qu'ils sont musiciens. Par exemple, aujourd'hui, on a reçu à l'Académie des Beaux-Arts vos autres collègues, Rostropovitch, et c'était pour lui aussi, lui qui vient de la Russie, et qui a fait le succès que l'on sait partout dans le monde, c'était pour lui aussi un honneur, et c'est un honneur pour la musique, je crois.
Mais là aussi, parce que je n'ai pas un seul amour, ni deux. Nous avons toujours, je me rappelle, quand nous étions étudiants au quartier latin, de temps en temps, on faisait sa crise de slavitude et on ne sortait plus qu'avec des étudiants ou des étudiantes slaves pendant un certain temps. Pourquoi ? Parce que dans la slavitude, il y a quand même une grande sensibilité qui est sœur de la sensibilité négro-africaine. Une grande sensibilité et puis une certaine nostalgie.
Il y a cette musique, Mozart, parce qu'elle va directement à votre cœur, mais il y a aussi cette autre musique qui est plus encore de chez vous, ce sont ces négros spirituels.
Toutes les qualités de la musique et du chant nègre se retrouve justement dans les négros spirituels.
Mais il y a aussi ce qui marque profondément vos pays, toute l'Afrique, Léopold Senghor. C'est cette musique africaine très, très particulière. Et on sait aujourd'hui qu'elle est au commencement de beaucoup de choses.
Je vous ai dit tout à l'heure que le penchant et la polyphonie sont originaires de l'Afrique. Et ce qui est remarquable aussi, dans les chœurs africains, ce sont les voix, les voix de femmes, les voix de contralto.
Oui.
L'an dernier, je me rappelle, j'ai reçu une lettre signée Sœur Marie-Thérèse, vous voyez, et puis il y avait son nom de jeune fille. Et alors, j'ai entendu de nouveau sa voix, car elle dirigeait les contraltos, ces voix graves de femmes. Il y a aussi que l'accompagnement dans la polyphonie en France se fait à l'octave, à la quinte et à la quarte, tandis qu'en Afrique, se fait à l'octave, à la quinte et à la tierce. Et les Européens disent, oui, c'est l'accompagnement sensuel. Et moi, je dis, c'est l'accompagnement sensible.
Léopold Senghor, tout à l'heure, nous parlions de la préhistoire africaine. Vous consacrez d'ailleurs dans ce livre qui paraît chez Grasset, ce que je crois, un chapitre à cette préhistoire. Vous écrivez, « L'on aurait tort de croire que la recherche préhistorique fut d'abord localisée dans la seule Europe. » Et nous l'avons dit, dès les premiers moments, l'Afrique atteste d'une présence humaine très ancienne. Mais on ne l'a su que très tard, où les choses ont été dites avec beaucoup de recul.
On l'a su que très tard, mais le fondateur du Musée de l'Homme, mon maître Paul Rivet, déjà dans les années 20, il parlait de cette préhistoire africaine. Il a été l'un des grands découvreurs de la civilisation le négro-africaine. Et je vous dis, il a été le premier, justement, à faire l'éloge du double métissage biologique et culturel.
Vous écrivez les poèmes en ce moment, Léopold Senghor ?
Non, le,
comment, le poète s'est endormi ?
J'ai encore 7 ou 8 poèmes que j'ai écrits ces dernières années. Je vais insérer ça dans une édition définitive de mes poèmes. J'ai 82 ans, vous voyez. Et je vais aussi faire paraître Liberté 5, que je vais intituler « Vers la civilisation de l'universel ». Alors, j'aurai accompli ma tâche.
Vous vous souvenez d'un poème ? Vous vous rappelez un poème que vous avez écrit ?
Femme nue, femme noire, vêtue de ta beauté qui est vie, de ta présence qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle.
Merci Léopold Senghor. Quel est le grand poète que vous aimez ?
Pardon ?
Quel est le grand poète que vous aimez ?
Ça dépend. Par exemple, parmi les poètes français, c'est Paul Claudel que j'aime. Et avant Paul Claudel, Rimbaud, qui a créé la poésie moderne, dont s'est inspiré Paul Claudel, et qui disait « Je suis un nègre, vous êtes de faux nègres ». Et il a alors défini une nouvelle esthétique, en parlant de la couleur des voyelles et des rythmes instinctifs. J'appelle ce rythme celui des répétitions qui ne se répètent pas.
Et j'aurais bien voulu être près de vous lorsque vous vous promeniez avec Georges Pompidou autrefois, parce que tous les deux, vous aviez un amour de la poésie, de l'écriture, des bouquinistes, et je sais que vous avez fait vraiment de longues conversations avec Baudelaire, Nerval, Rimbaud, Proust, Peggy, Gide, et sans aucun doute Claudel, parce que ils étaient vraiment vos pensionnaires favoris, en tout cas dans le cœur.
C'est Pompidou qui m'a initié à la poésie française et même à la culture française. Nous étions une soixantaine au lycée le Grand, et Pompidou était toujours dans les 10 premiers, même quand il s'agissait de ping-pong.
Il était brillant partout.
Il était brillant partout.
Léopold Senghor, je vous remercie pour ce livre, parce que vous êtes, je crois, un exemple en ce domaine. Vous aurez vraiment tout accompli. Vous serez parti d'un pays immense, l'Afrique. Vous avez été au Sénégal. Vous êtes devenu étudiant, agrégé, professeur. Ensuite, vous êtes monté au sommet vraiment de la hiérarchie, puisque vous êtes devenu président de la République. Peut-être malgré vous, mais vous y avez consacré quand même 20 ans de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes à l'Académie française, mais plus encore, vous vous occupez de la francophonie. Et je dois dire que nous, les Français, on devrait vous dire mille merci pour tout ce que vous faites pour notre langue. Alors, Léopold Senghor, je rappelle le titre de votre livre qui paraît chez Grasset, « Ce que je crois ». J'ai été heureux de vous retrouver ici à Paris. Merci.